Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les titres de l'actualité de ce samedi 4 juin, 100e jour de la guerre en Ukraine. La Russie poursuit son offensive. Elle détient 20% du territoire ukrainien selon Kiev, qui pourtant l'assure par la voix de son président, l'Ukraine va gagner cette guerre. La reine Elisabeth II absente des festivités du jubilé qui célèbre ses 70 ans au pouvoir. On l'a vu le premier jour, c'était jeudi. Depuis, la souveraine de 96 ans se repose, de quoi relancer les questions sur son état de santé. Emmanuel Macron détaille la ligne directrice de son second mandat dans une interview accordée à la presse régionale. Écologie, pouvoir d'achat, institutions, le chef de l'État veut réunir un Conseil national de la refondation s'il gagne les élections législatives. Et enfin, du sport, l'affiche pour la finale homme de Roland-Garros. Nadal contre Rudeux, ce dimanche, 14e finale sur la terre battue parisienne pour Rafa. Il n'en a perdu aucune. On ouvre ce journal avec ce chiffre tristement rond, 100. Hier, c'était le 100e jour de l'invasion russe en Ukraine. On fait tout de suite le bilan avec Franck Alexandre pour Radio France Internationale.
Au matin du 24 février, le Kremlin était persuadé qu'il ne lui faudrait que quelques jours pour s'emparer de l'Ukraine. Trois fronts simultanés sont ouverts, objectif Kiev, le Donbass et le sud du pays. Plus de 100 000 hommes sont engagés, mais rapidement l'opération spéciale, comme la désigne Moscou, se heurte à une farouche résistance. Non seulement en termes d'effectifs, le rapport de force n'est pas en faveur des Russes, mais l'armée ukrainienne bénéficie d'un armement de haut niveau, notamment avec les missiles portatifs anti-chars fournis en quantité par l'Occident et qui vont décimer les colonnes blindées adverses. En trois mois, Moscou va ainsi perdre près de 700 chars de combat mal renseignés, mal ravitaillés, sans suprématie aérienne. L'armée russe, dès la fin avril, se résout à revoir ses ambitions à la baisse et bascule son effort sur le Donbass. Dès lors, le rouleau compresseur russe, axé sur l'artillerie, se met en place. Le conflit prend une tournure de guerre d'usure, mais l'armée russe, qui n'a pu régénérer ni son matériel ni ses troupes, s'épuise, plus de 15 000 soldats auraient été tués de part et d'autre et le conflit, juge les experts militaires, pourrait durer et se muer en une guerre de position entrecoupée de nécessaires pauses opérationnelles.
De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est certain de la victoire de son pays. C'est en tout cas ce qu'il a clamé dans une courte vidéo postée sur Instagram hier justement pour l'anniversaire. On l'écoute.
The faction leader is here. The head of the presidential office is here. The prime minister is here. The presidential advisor is here. The president is here. Our team is much larger. The Ukrainian armed forces are here. Most importantly, our people are here. We have defended Ukraine for 100 days already. Victory will be ours. Glory to Ukraine. Glory to heroes.
De l'autre côté du front, ce 100e jour a été marqué par la visite à Moscou du président de l'Union africaine Macky Sall. Entre Vladimir Poutine et le président sénégalais, il a été question des blocages des exportations de céréales qui menacent la sécurité alimentaire mondiale et surtout la sécurité alimentaire du continent africain. Pour Macky Sall, il ne fait aucun doute que les Occidentaux doivent lever les sanctions. Écoutez.
Et qu'il fallait absolument...
We told Russian President Vladimir Putin that he absolutely had to help to facilitate the export of Ukrainian seeds. But above all, Russia must also be able to export fertilizers and food products, mainly cereals, since it is the country that exports the most cereals. Obviously, these requests are incompatible with sanctions. This is why we thought, after this exchange, to appeal to Western partners. I also salute the American position on this matter, as they lifted the sanctions regarding food, provisions and fertilizers.
Et quant à Vladimir Poutine, il soutient lui que les Occidentaux se trompent en l'accusant d'empêcher les exportations de céréales ukrainiennes. Il assure qu'il existe de nombreuses solutions.
Il est possible d'exporter les céréales ukrainiennes à partir des ports qui sont sous le contrôle de l'Ukraine, à partir d'Odessa et des ports voisins. Ce n'est pas nous qui avons miné les ports et leurs environs, c'est l'Ukraine qui l'a fait. J'ai déjà dit à plusieurs reprises à tout le monde, faites-les déminer et laissez les navires chargés de céréales sortir des ports. Nous garantissons leur passage pacifique sans aucun problème. La seconde possibilité est de faire partir des ports de la mer d'Azov, Berdiansk et Marioupol sont sous notre contrôle. Nous sommes prêts à régler tous les problèmes d'exportation. Nous allons mettre en place toute la logistique nécessaire. Troisièmement, il est possible d'exporter des céréales de l'Ukraine à travers le Danube et à travers la Roumanie. Quatrièmement, il est possible de passer par la Hongrie, par la Pologne, où il y a certains problèmes techniques pour les wagons, par exemple, mais il est possible de les régler en quelques heures et c'est tout. Enfin, le plus simple est l'exportation à travers le territoire de la Biélorussie.
On va regarder de plus près ce qu'il se passe sur le terrain maintenant. L'armée russe qui resserre son emprise dans l'est du pays. 20%, on le disait en titre, 20% de la totalité de l'Ukraine est occupée selon Kiev. Les troupes pillonnent en continu Severodonetsk, mais également un ensemble de localités proches, formant ainsi un étau de plus en plus serré dans la région de Louhansk. Les habitants vivent sous pression constante. À Lysychansk, on retrouve les envoyés spéciaux de RFI, Sébastien Nemeth et Jade El-Khoury.
La famille vit à l'intérieur d'une maison isolée. Leur village est quasi désert et tout autour, les forces russes resserrent leur étau. Ludmila et ses proches sont coincés.
Nous n'avons nulle part où aller et nous n'avons pas assez d'argent. Si nous partons, nous avons peur de ne plus jamais pouvoir rentrer. On vit dans la terreur et tout est coupé. Gaz, électricité, eau, et il n'y a presque plus rien dans les boutiques du village. On survit en partie grâce aux légumes du potager.
Chaque jour, les Russes gagnent du terrain et les bombes se rapprochent. Karina s'inquiète plus que tout pour ses enfants.
Les enfants ont peur. Ils nous demandent ce que sont ces bruits, ce qu'est la guerre, pourquoi les Russes sont là. On essaye de leur expliquer, mais c'est difficile pour eux de comprendre.
Dans un village voisin, Viktor Nikolaevitch coupe son bois, comme d'habitude. Ce veuf vit seul et pour lui, pas question de bouger en dépit du danger.
Je ne partirai jamais, même si on me donne un appartement aux États-Unis, je préfère rester ici. Si les Russes prennent ce territoire, je resterai ukrainien et cette terre sera toujours ukrainienne.
Les Russes poussent afin d'isoler cette poche de territoire encore contrôlée par l'Ukraine. S'ils y parviennent, ses habitants seront coupés du reste du pays.
Pour clore cette page largement consacrée à l'Ukraine, cette dernière information, le Quai d'Orsay a confirmé la mort d'un Français à Kharkiv, selon les informations des radios françaises ce matin. Il s'était engagé comme soldat dans une légion étrangère ukrainienne après l'appel à la mobilisation lancé par Volodymyr Zelensky en début d'invasion. C'est le troisième Français décédé sur le sol ukrainien depuis le début de la guerre. Dans le reste de l'actualité internationale, ce samedi 4 juin marque le 33e anniversaire du massacre de la place de Tiananmen à Pékin. Dès hier, la police de Hong Kong a interdit toute veillée commémorative, comme c'était la coutume jusqu'en 2020. Année où la loi très répressive sur la sécurité nationale a été promulguée. On écoute ce Hongkongais qui regrette ne plus pouvoir commémorer cette date comme avant.
I think that lighting a candle is very meaningful, but because of the restrictions here at this venue, I don't think that I can light a real candle. The feeling of a real candle is really different. The heat, the smoke, you can smell it.
Le 33e anniversaire du massacre de la place de Tiananmen, c'est justement le sujet de notre rétrospective du jour. Rétrospective préparée par Léo Roussel, à écouter sur SBS French un petit peu plus tard dans cette émission ou à retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french. On prend maintenant la direction du Royaume-Uni et elle ne sera finalement pas présente ce samedi pour le deuxième jour consécutif. Elle, c'est la reine Elisabeth II, elle est absente des festivités de son jubilé. Après avoir manqué la cérémonie donnée à la cathédrale Saint-Paul hier, elle n'ira pas non plus à la traditionnelle course hippique d'Epsom. C'est sa fille Anne qui la représentera. Une absence qui était attendue toutefois puisque Buckingham Palace avait déjà fait savoir il y a quelques mois que la reine, âgée de 96 ans, ne participerait pas à tous les événements durant les 4 jours de fête. À Londres, la correspondance d'Emeline Vin.
Ce n'est pas le premier événement qu'Elisabeth II manque pour raison de santé. Shrena, venue avec son fils et plein de drapeaux, espérait vraiment apercevoir la reine à la cathédrale.
Mon fils était triste et moi aussi de ne pas la voir, mais elle doit se reposer naturellement et préserver son énergie. On était déçus, mais on a pu voir les autres membres de la famille royale. C'était super.
Se reposer après une longue journée, Bev comprend, bien sûr, mais la jeune femme est persuadée que l'apparition au balcon jeudi, n'était pas la dernière de la reine.
Ce serait affreux. On sait qu'elle n'abdiquera jamais. Jamais, elle l'a promis. Je pense qu'elle va ralentir le rythme. Mais elle va choisir ce qu'elle a vraiment envie de faire.
T-shirt et boucle d'oreille aux couleurs du drapeau, Sylvia non plus n'est pas prête à dire au revoir à sa souveraine.
J'ai le sentiment qu'elle vivra jusqu'à 100 ans, voire plus, comme sa mère. Il lui reste encore plusieurs années devant elle, je pense. J'espère en tout cas qu'elle vivra plus longtemps.
Les spectateurs espèrent une dernière apparition lors du grand défilé dimanche après-midi.
Et justement, dans ce contexte de jubilé, une île sur le lac Burley Griffin à Canberra vient d'être nommée en l'honneur de la reine. Aspen Island sera désormais plus connue sous le nom de Queen Elizabeth Island, annonce faite par le Premier ministre Anthony Albanese lors d'une cérémonie d'hommage à celle qui est venue 16 fois en Australie en 70 ans.
For 7 remarkable decades, Her Majesty has been the embodiment of grace, fidelity and dignity, and Australia has a deep affection for her. She's, after all, the only reigning monarch most of us have known, and the only one to have ever visited our great nation of Australia.
Un mot de politique française à présent et un mois et demi après sa réélection, Emmanuel Macron détaille les grandes lignes de son projet politique lors d'une interview accordée à la presse quotidienne régionale. Le chef de l'État annonce la création d'un Conseil national de la refondation après les élections législatives des 12 et 19 juin s'il les gagne. Anthony Latier, RFI.
Emmanuel Macron assume la référence au Conseil national de la résistance mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Le moment que nous vivons impose, selon lui, un changement profond de modèle. Alors qui prendra part à ce Conseil national de la refondation? Eh bien les forces vives de la nation et des citoyens tirés au sort. Leur rôle est encore flou, mais ils devront ensemble chercher des solutions sur les réformes à venir sur l'école ou la santé. Des concertations seront lancées dès cet automne. À la même période, sera mise en place une commission transpartisane pour changer les institutions. Quant à la réforme des retraites, elle devra entrer en vigueur dans un an. Mais pour mettre en œuvre cette feuille de route, Emmanuel Macron doit d'abord gagner les élections législatives. Le président, en retrait jusqu'ici, durcit donc le ton en ciblant ses deux adversaires Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, dont les projets sont synonymes d'après lui de désordre et de soumission. En cas de victoire de la gauche, Emmanuel Macron laisse entendre qu'il ne nommerait pas Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Dans la Constitution, explique-t-il, aucun parti ne peut imposer un nom au président.
La météo de ce samedi après-midi, il fait nuageux à Perth, 18 degrés. Du vent et des averses à Adélaïde, comptez 15 degrés. À Melbourne, je regarde par la fenêtre maintenant, il fait plutôt nuageux, hein, 15 degrés. Hobart, nuageux, 13 degrés également. Canberra, il y aura probablement des averses, 11 degrés. Sydney, du soleil, 18 degrés. Brisbane, 23 degrés. Cairns, 29. Et Darwin, du soleil, comptez 32 degrés.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Et le rappel des titres de ce samedi 4 juin, 100e jour de la guerre en Ukraine, la Russie poursuit son offensive. Elle détient 20% du territoire ukrainien selon Kiev. La reine Elisabeth II absente des festivités du jubilé qui célèbre ses 70 ans au pouvoir. De quoi relancer les questions sur son état de santé. Et enfin, le président français Emmanuel Macron détaille la ligne directrice de son second mandat. Écologie, pouvoir d'achat, institution, il veut réunir un Conseil national de la refondation.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.